4, versets 7 à 16. Quelqu'un qui a besoin d'une Bible, tenez la main bien haute. On va vous apporter une Bible dans Éphésiens 4, versets 7 à 16, et je vais faire la lecture. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce matin, je commence une nouvelle série qui ne sera pas tellement longue. Avec cette série-là, ce qu'on veut faire, on veut clarifier, communiquer, insister et par la grâce de Dieu, vous convaincre à embarquer dans ce qu'on est en train de faire dans cette assemblée. La série va durer 3, 4, peut-être 5 semaines. Ça ne me surprendrait pas aussi que les anciens me demandent d'ajouter un ou deux sujets à travers la série. Ce n'est pas impossible. Maintenant, par cette série, je le répète, on veut vous communiquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons dans cette église. Nous allons voir concrètement certaines choses qu'on fait ici. Pourquoi est-ce qu'on est en train de les faire? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que vous devriez embarquer avec nous dans ce qu'on est en train de mettre en place dans l'Assemblée. Et évidemment, on va voir à quel point cette vision-là est profondément biblique, en accord avec le plan de Dieu. On a juste un commentaire sur notre super image de cette semaine, le chrétien upgradé. Comment vous aimez ça? Les jeunes aiment ça, il y en a d'autres qui c'est comme, c'est élevé, mais je dois vous dire que déjà, Oscar l'a trafiqué, il y avait comme une tête de mort à quelque part là-dessus. Il a déjà amélioré l'affaire un petit peu. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait pu prendre une image comme la suivante pour parler du chrétien upgradé, plus comme la mélodie du bonheur, hein, quelque chose comme ça. Ça ne représentait pas vraiment l'idée, vous voyez? Alors l'idée ressemble un petit peu plus à ce qu'il y a avant. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement la mélodie du bonheur dans un chant de pré avec Jésus en gougoune puis les chrétiens qui distribuent des pâquerettes aux passants dans la rue. Il y a quelque chose de plus sérieux, de plus intense que ça. Et l'autre image représentait un peu plus le défi qu'il y a devant nous. C'est sûr que les chrétiens, on est appelés à être joyeux, dans la joie, toujours souriants, pacifiques, en paix. Mais en même temps, il y a quelque chose de très sérieux à la vie chrétienne. Vous savez, il n'y a personne sur la terre qui possède les ressources que nous possédons pour avoir des mariages heureux. Personne. En Jésus-Christ, dans la foi chrétienne, nous avons des ressources uniques pour avoir un mariage heureux. Mais en même temps, la mélodie du bonheur, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Parce qu'avoir un mariage heureux dans le Seigneur, ça demande de rester collé à Christ. Ça demande de passer du temps à genoux dans la prière. Ça demande de développer et de grandir dans notre humilité pour être capable de se réconcilier constamment, jour après jour. Persévérer dans la foi jusqu'à la fin et traverser les épreuves que la vie nous réserve avec joie. Ça demande de rester collé au Seigneur constamment, ça. Ça demande de passer du temps dans la parole. Ça demande de rester collé à Dieu et à son Église pour pouvoir traverser ces épreuves-là dans la joie. Alors, il y a quelque chose de très intense à la vie chrétienne. Il y a une réalité où nous sommes engagés dans un combat. Dans Éphésiens 6, Paul parle des armes, de l'armure du croyant. C'est un langage guerrier qui est donné. Pierre nous dit qu'on doit veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il nous parle des passions qui font la guerre à l'âme. Il nous parle d'une guerre intérieure. Il y a quelque chose de très sérieux qui demande un engagement, qui demande une discipline, qui demande une consécration du cœur. Il y a une guerre que nous sommes en train de livrer afin de vivre cette joie, cette paix et cette grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Et c'était ça l'idée de cette image. C'est celle que vous allez avoir pendant la série. Ce matin, ce que je veux faire avec vous en quelques minutes, je veux simplement déposer le fondement de la série. On est dans Éphésiens 4. Tout ce qu'on va voir à travers les prochaines semaines repose sur ce qu'on va voir ce matin. Je vais me concentrer sur deux versets essentiellement. C'est relativement simple ce qu'on va voir. Il faut que vous saisissiez cela, d'accord? Je dépose un fondement biblique et tout le reste de la série, les prochaines semaines, découle de ça. Constamment, je vais revenir à partir de là. Maintenant, pourquoi faire cette série? Pourquoi commencer une série comme ça? Vous savez, à l'Église ici, notre habitude, c'est de prendre un livre de la Bible. On a dit, grâce à Jessica, que le prochain livre, c'était Ézéchiel, 48 chapitres. On devrait en avoir à peu près pour 6 ans. C'est encore dans la prière, faites-moi confiance. Mais pourquoi est-ce que je ne pense pas tout de suite à un autre livre de la Bible? Et je peux vous assurer que ce n'est pas parce que je ne sais pas vers quel livre aller. Ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines, c'est un défi beaucoup plus grand pour moi que de prendre un livre et de passer à travers le livre chapitre après chapitre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre certains sujets majeurs de la vie d'une église et on va les voir ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire cette série? C'est parce qu'il y a des soucis. Il y a des choses qui sont sur le cœur des anciens, qui sont dans notre cœur et on en parle depuis un bon bout de temps. Je vous dirais depuis un an, nous traitons de certains sujets, on discute là-dessus, on revient là-dessus et on se pose des questions. Lundi, on avait encore une rencontre des anciens. Cette assemblée est dirigée par un collège d'anciens. Les anciens sont les pasteurs de cette église. Et lundi, j'ai posé une question au gars. On a passé 6 heures à réfléchir, à discuter. C'est les réunions pour nous. On s'assure qu'on est en train de conduire l'église dans la direction que le Seigneur veut. Et une des questions que j'ai posées au gars, j'ai dit, regardez, on a tout l'agenda de tout ce qu'on veut discuter ensemble, mais j'ai une question avant pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à l'église? Parce que voyez-vous, il y a plein de choses qui vont bien, extrêmement encourageantes. Un projet comme celui-là, nos enfants vont voir à quel point ils sont précieux. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui décident de passer par les eaux du baptême. Il y a 50 de personnes qui sont engagées dans la formation de disciples. On a des cours extraordinaires qui sont offerts. J'ai des histoires que moi j'entends, des gens qui viennent me partager des victoires incroyable sur le péché, dans leur vie, des bénédictions, des gens qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, il y a des belles choses qui se passent. Mais j'avais quand même cette question-là pour les anciens. Et j'avais évidemment ma réponse à moi. Mais je leur ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à l'Église? Comme berger, quelque chose qui est sur votre cœur. Et vous savez ce qui est sorti? Je vais le résumer comme ça. Le sentiment qu'il y a deux églises dans l'Église. Le sentiment qu'il y a comme deux assemblées dans l'Église. Il y a une partie de l'Assemblée qui est avec nous, qui est en train d'avancer, qui est en train de suivre la direction qu'on est en train de donner. Et on voit des fruits, on voit des bénédictions dans ces vies-là, des grâces qui sont là, pas simplement parce qu'ils sont avec nous, parce qu'ils sont en train de marcher avec Dieu à travers ça. Et c'est très réel, c'est extrêmement encourageant. Chaque semaine, lorsqu'on se parle, les anciens, nous nous partageons des bénédictions de voir des gens qui grandissent, qui avancent avec nous, qui sont en train de grandir. Et il y a une autre partie de l'Assemblée, et vous savez de quel côté vous êtes, qui est là et qui nous regarde un petit peu, qui regarde les choses aller, qui n'est pas engagé, qui n'est pas en train de suivre la direction des anciens. Je sais que c'est un sujet sérieux que je vous apporte ce matin. Je vous parle avec mon cœur, d'accord? Je vous parle avec un cœur de berger. Vous savez, un an après ma conversion, je suis allé voir Richard Roule. J'ai dit, Richard Roule, c'était mon pasteur à l'époque, mon premier pasteur. Je suis allé voir Richard, puis j'ai dit, moi, je veux prendre ta place. C'est ça que je veux faire. Fait qu'il m'a dit, regarde, tu vas retourner prier parce que être pasteur, il y en a que c'est difficile. C'est dur. Cherche quelque chose d'autre que tu pourrais faire de ta vie. Et je suis allé prier. Je suis allé passer du temps dans la prière. Et je lisais dans Ézéchiel et je voyais les mauvais bergers. Et vous savez, c'est quoi la prière que j'ai faite au Seigneur? Je pleurais. Je vous dis, j'étais en larmes. Puis je disais au Seigneur, Seigneur, donne-moi un troupeau à paître et je ne serai pas comme ces bergers-là, Seigneur. Je vais mettre tout mon cœur, toute mon énergie, toutes mes préoccupations à prendre soin de tes enfants, Seigneur. J'avais aucune idée de ce que je suis en train de dire. Ça ne va pas en tout dans quoi je m'embarque. Mais vous savez quoi? Ça fait presque 20 ans que j'ai fait cette prière-là au Seigneur. Ça fait 14 ans peut-être que je travaille ici pour l'Église maintenant à temps plein. J'ai cette même passion-là dans mon cœur. Elle ne s'est pas atténuée, aucunement. Et chaque jour que je me lève, mon épouse encore hier soir me disait, « Yannick, tu es toujours en train de penser à ça. » J'ai dit, « Oui, mais chérie, c'est ma vie. C'est ma vie. Dieu m'a confié des âmes. » Christ a dit à Pierre, « Paie mes brebis. Dieu m'a confié des âmes, Esther. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma prière. C'est comme ça que mon cœur bat. » Et c'est le cas des anciens. Tous les pasteurs, je vous dis, ce sont des hommes de Dieu. Et lorsque vous vous éloignez, lorsque vous êtes là dans l'église, puis vous regardez un petit peu le train passer, puis vous regardez les choses aller, puis vous êtes un peu comme décroché, on le voit. Je le vois dans vos yeux quand je prêche. Savez-vous ça? Je ne suis plus à ma première année de prédication. Hein? Quand je prêche, c'est avec vous que je parle. Et je le vois dans vos yeux, je le vois quand vous me serrez la main. On le sait lorsque vous êtes absent. On le sait lorsque votre cœur se refroidit. On sent ces choses-là. Et notre prière, notre souci, c'est que vous soyez avec nous. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas avec nous. Je ne suis pas en train de parler de temps. Hein? Ce matin, je ne suis pas en train de vous parler d'engagement de temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui sont ici, ils ont donné 20 heures, 30 heures dans la salle là-bas. Ce n'est pas de ça dont je parle. Le temps pour servir le Seigneur, c'est très, très, très relatif. On a des saisons de vie, on traverse des saisons dans notre vie, on a des préoccupations, des fois des problèmes de santé, des fois des défis dans notre couple, des fois avec nos enfants. Et donc, ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler, d'accord? Je suis en train de parler d'un engagement du cœur. Je suis en train de parler d'une passion pour cette assemblée, pour le royaume de Dieu, pour voir ce que Christ est en train d'accomplir ici. Certains d'entre vous, vous savez que vous faites partie de cette portion de l'Église qui est en train de regarder le train passer. C'est vous qui le savez. C'est le Seigneur qui le sait. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent vous avoir amené là. Je vais vous en donner quelques-unes, d'accord? Certaines, c'est des raisons très, très, très personnelles. Peut-être que votre cœur s'est refroidi à l'égard de Christ. Votre cœur est tiède. Et encore une fois, il y a plusieurs raisons possibles pour ça. Ça peut être des épreuves que vous avez vécues où il y a eu de la souffrance et vous ne vous êtes jamais entièrement relevé de ça. Vous êtes resté, en québécois, stallé là, dans cette épreuve, dans cette souffrance. Vous avez décroché de Christ à ce moment-là. Et votre foi n'est plus la même, votre cœur est tiède pour Jésus-Christ. Peut-être aussi que c'est les plaisirs du monde qui vous ont attiré, cette passion pour la vie ici-bas. Vous êtes en train de vous installer pour vivre ici 300 ans. D'accord? Vous allez vivre éternellement sur cette terre et votre passion, vos énergies sont consacrées à penser à cette maison qu'il faut bâtir, à ces vacances où il faut aller, à mes hobbies, aux choses que je voudrais installer. Et sans vous en rendre compte, tranquillement, la passion qui est censée être là pour Jésus-Christ a glissé. Vous suivez le train de ce siècle. En termes bibliques, vous avez des idoles dans votre cœur. Vous avez des idoles qui sont venues prendre la place de Christ sur le trône de votre cœur. Et votre cœur bat au rythme de ces idoles-là, de ces passions-là. ça signifie que votre cœur s'est refroidi pour Jésus-Christ. Et donc, peut-être que c'est ça essentiellement. C'est vraiment entre vous et Christ, et nous, on le perçoit comme berger. On le voit dans la vie de l'Église. Ou encore, ce sont des épreuves personnelles qui sont rendues tellement grosses qu'elles préoccupent toutes vos pensées. Votre cœur, toutes vos énergies sont accaparées par des difficultés dans votre couple, par un enfant qui ne va pas bien. Et ça prend toute votre énergie par des problèmes de santé, par des défis personnels. Toute votre énergie est là. Vous savez quoi, comme pasteur, on accompagne des gens qui souffrent constamment. À l'année, nous sommes en train d'accompagner des gens qui souffrent. Maintenant, il y a deux groupes. Ça peut sonner très dur ce que je vais vous dire. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Il y a deux groupes d'individus qui souffrent dans la foi chrétienne. Il y a ceux qui, à travers leur souffrance, à travers leur épreuve, ne perdent pas de vue Jésus-Christ. Ne perdent pas de vue l'avancement du royaume. Des gens qui attendent des greffes de foi et qui ne perdent pas de vue le royaume et Jésus-Christ. Des gens qui sont trompés par leur conjoint et qui ne perdent pas de vue Jésus-Christ et son royaume. Des gens qui ont des enfants qui ne vont pas bien. Des gens qui perdent un enfant qu'ils portent dans leur ventre et qui ne perdent pas de vue Jésus-Christ et son royaume. Garde les yeux fixés sur Christ et dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie à travers cette épreuve-là? Comment est-ce que tu veux affecter mon témoignage à travers ça? Je visite des gens à l'hôpital qui attendent une greffe de foi et qui me disent avec larmes, je sais que Dieu veut me faire témoigner à travers ça. Vous comprenez, quand je vous parle de souffrance, je sais que plusieurs d'entre vous, vous me regardez en avant et vous dites, hey, le flot, tu ne sais même pas c'est quoi souffrir. Quand tu passeras par où on passe, tu nous feras un sermon, OK? Mais moi, des gens qui souffrent pour de vrai, j'en vois toutes les semaines. J'en vois toutes les semaines. Et je vois des gens qui gardent les yeux fixés sur Christ. D'autres, frappés par les mêmes épreuves, par les mêmes souffrances, progressivement se retirent. Ils se retirent et se replient sur eux-mêmes. Complètement perdu Jésus-Christ de vue, sont repliés sur eux-mêmes, fermés sur eux-mêmes, en train de panser leurs plaies. C'est la même souffrance dans les deux cas, vous comprenez? C'est la même douleur. Je ne suis pas en train de vous parler avec insensibilité. Je suis en train de vous dire qu'il y a celui qui garde les yeux fixés sur Christ dans son épreuve et celui qui se replie sur lui-même. La même épreuve, la même souffrance. Quand nous vous visitons, c'est frappant la différence. La différence saute aux yeux. Et si vous vous êtes replié sur vous-même à travers des épreuves de votre vie, bien vous êtes probablement là en train de regarder le train passer. Préoccupé par la douleur que vous vivez. Elle est là, elle est bien réelle. La manière de la traverser, c'est de garder les yeux fixés sur Christ et sur son royaume pour trouver le sens que Christ est en train de donner à cette douleur, à cette souffrance. Il y en a que c'est pour des épreuves personnelles, d'autres c'est un refroidissement par rapport à Jésus-Christ. D'autres d'entre vous, vous êtes en train de regarder le train passer parce que ça fait longtemps que vous êtes chrétien. Puis peut-être ça fait même longtemps que vous venez à l'Église de l'Espoir, puis vous connaissez l'histoire de cette Église, et vous savez quoi? Moi, je me suis converti la deuxième année de ma conversion, il y a une crise doctrinale dans l'Église ici. Le pasteur, c'était mon deuxième père. C'est pas compliqué. J'étais en amour avec ce gars-là, il est en train de m'apprendre à vivre. Puis il me rencontre, il prend un café avec moi, puis il dit, Yannick, je dois quitter l'Église. Je dois quitter l'Église, il y a une crise dans l'Église, puis c'est ça qu'on me conseille, quitte l'Assemblée. L'Assemblée va juste s'en remettre si tu quittes. Richard Roule, crise doctrinale, crise dans l'Église, le leadership, après ça une autre, après ça une autre, après ça une autre. Et vous savez ce que ça fait dans le cœur de plusieurs? On s'attache à ceux qui donnent la direction, on s'attache au pasteur. Moi, j'étais attaché à Richard Roule. Alors là, il y a un danger qui vient, parce qu'il y en a un qui s'en va, mais on s'est attaché, puis là, il s'en va à travers des conflits, à travers des difficultés, puis là, on voit, mais ces gars-là, c'est les mêmes que nous, ils sont pareils comme nous, c'est des pécheurs. Pourquoi je les écouterais? Après une fois, après deux fois, après trois fois, vous êtes assis là dans le banc, puis vous nous regardez, puis vous dites, on va les checker, on va les laisser aller. On va voir si on devrait s'attacher à eux. On va voir si on devrait les suivre. On va voir si on devrait embarquer. Vous savez de quoi je parle? Hein? Vous savez de quoi je parle? On va les regarder aller, ceux-là. En plus, c'est une gang de green. C'est une gang de flots qui sont en avant. À part le vénérable Robert Saint-Pierre, je veux dire... tout en bas de 40 ans jusqu'au 5 octobre, les autres. Des jeunes, tu sais. Qu'est-ce qu'ils savent, ces gars-là? Pastors, they come and they go. Vous connaissez l'expression? On regarde le train passer. Vous êtes un peu décroché, puis vous dites, ouais, ouais, c'est ça. Ils nous disent qu'il y a une nouvelle patente à embarquer. Puis vous regardez le train passer, le train passer, le train passer, et les années passent. Les années passent parce que votre cœur se refroidit à l'égard de Christ, à l'égard de son Église, à l'égard de son royaume. Seigneur, tiens-moi la main jusqu'à temps que je rentre au ciel parce que c'est juste ça qui me reste. J'ai plus de passion pour ton royaume. Je ne crois plus dans ton Église. Ou bien tout simplement, vous dites, ouais, mais l'Église change. Et ça, c'est vrai pour les chrétiens de n'importe quel âge. Hein? Il y a des jeunes vieux puis il y a des vieux jeunes. Ça n'arrête pas de changer, cette église-là. Et vous avez raison. Voyez, on s'en fâche pas tellement dans les fleurs du tapis. J'ai pas de veston ce matin, pas de cravate. On est en train de faire des choses avec un fou qui est en train de faire toutes sortes d'affaires bizarres. Alors, c'est vrai. C'est vrai, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. L'église change. Vous avez raison. Maintenant, chez certains, ce que ça produit, c'est « Wow, l'église change. » Si on touche à la doctrine, si on touche à la parole de Dieu, sautez-moi dessus, s'il vous plaît. D'accord? Mais pour le reste, là, Jésus n'avait pas de veston. Ça se peut même que j'arrive en gougoune un jour parce que Jésus avait des gougounes. D'accord? Mais l'Église change. L'Église change, puis ça vous amène peut-être à décrocher dans votre cœur. Il y a des vieux jeunes, puis il y a des jeunes vieux. Les hommes qui m'ont formé, c'était des vieux jeunes. Les Monsieur Keith, les Monsieur Alexania. Et vous savez quoi? Un jour, Jade va m'arriver, puis Bastien m'ont dit, « Papa, il faut changer ça. » Faut changer ça, moi je l'aime l'Église, puis je veux qu'elle me ressemble. Ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la prochaine génération est en train de prendre possession de l'Église. Et peut-être que c'est ça aussi. Les choses changent et vous décrochez. Alors, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais elle est réelle. C'est une réalité. Il y a une partie de l'Assemblée qui est avec nous, puis il y a une partie de l'Assemblée qui n'est pas avec nous. Peut-être que c'est beaucoup plus simple que ça. La vision a besoin d'être clarifiée. Vous dites, moi, je les suivrai, mais je ne sais pas où ils s'en vont. Fait que j'ai besoin que ce soit plus clair. Et il y en a d'entre vous, c'est ça? Vous êtes nouveau dans l'Église ou peut-être qu'on n'a pas encore assez bien communiqué. Puis c'est parfait, c'est légitime, génial. C'est ça qu'on va faire à travers la série. On va clarifier pourquoi nous faisons ce que nous faisons et où est-ce qu'on s'en va. D'accord? Une dernière question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans cette assemblée? Pourquoi est-ce que les anciens partent ceci ou partent cela? Comment ceci vous demande de vous embarquer dans cela? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire des choses? Quand ces gars-là se réunissent, Robert, Michel, Alexandre, Yannick, notre fidèle compagnon d'œuvre qui ressemble de plus en plus à Jésus, Danny, avec sa barbe, ses gougounes au bureau. Quand ces gars-là se réunissent, puis ils commencent à réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce qu'ils décident de partir une affaire? Est-ce que les gars ont décidé qu'il fallait une église cool? Tu sais, on a une église pour les jeunes, puis ça va être super hot, cette église-là. On va avoir l'église la plus cool de Montréal. Est-ce que c'est ça la raison? Parce que c'est vrai que ça peut avoir de l'air de ça. Ah, Yannick qui pense qu'il va être cool avec son iPhone puis sur Facebook, tu sais, fait que c'est juste ça, tu sais, il va comme accrocher les jeunes avec ça. Est-ce que les gars partent une nouvelle bébelle parce qu'ils se disent, il y a du monde qui sont décrochés, fait qu'il faut partir une nouvelle patente. Si on part quelque chose d'autre, là, ça va peut-être lever l'affaire. On part une nouvelle bébelle puis on va essayer d'embarquer le monde. On va juste être plus pété encore. Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que les gars suivent des modes? Vous savez, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, il y a des modes dans le milieu évangélique. Est-ce que les gars sont en train de suivre des modes? C'est un fade qui passe, qui va mourir. Les gars sont en train d'embarquer dans une mode. Par la grâce de Dieu, vous savez quoi? La réponse est non. On va sûrement faire des erreurs, mais par la grâce de Dieu, jamais. Par la grâce de Dieu, nous allons faire tout ce que nous faisons et nous vous proposons, nous vous demandons d'embarquer dans des choses, parce qu'on croit que ça vient de la parole de Dieu, mais la réponse se trouve dans Éphésiens 4. Et je veux m'arrêter ce matin, surtout sur les versets 11 et 12. Les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, nous travaillons à votre perfectionnement. Le chrétien upgradé, mis à jour. Nous travaillons à votre perfectionnement, à votre équipement. Littéralement, c'est ça que nous faisons. Et tout ce que nous entreprenons sert à vous perfectionner. Je vais revenir sur l'expression, d'accord? Remontez un petit peu plus tôt avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens 1, versets 3 et 4. 3 à 5, en fait. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, premièrement, Dieu a élu des âmes. Avant que la terre existe, avant que la terre ne soit créée, Dieu a choisi des hommes et des femmes. Et l'Église cherche les élus. Littéralement, c'est ça qu'on fait. L'Église va de par le monde au travail. On annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On le fait avec nos amis, on le fait au travail, on le fait à l'école, on le fait avec les voisins, par toutes sortes de projets de l'Assemblée. On annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de chercher les élus. C'est ça qu'on fait. Parce que Dieu les a déjà choisis. Et nous, on annonce la bonne nouvelle. Et à un certain moment donné, alors qu'on annonce la bonne nouvelle, il y a une étincelle qui s'allume dans un regard. Il y a une étincelle, il y a des larmes de joie qui commencent à couler. Parce que cette personne-là a été saisie par l'Esprit de Christ et vient de passer par la nouvelle naissance. Elle a saisi qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, que le sens de cette vie, c'est de glorifier Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, en marchant à la suite de Jésus-Christ, en étant pardonné et réconcilié avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Et lorsqu'on voit cette flamme s'allumer dans les yeux, le travail de transformation commence. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens 2. Des versets que vous connaissez plusieurs d'entre vous très bien. Éphésiens 2, 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'Église annonce la bonne nouvelle à tout le monde autour de nous. On cherche les élus. Et lorsque Dieu, dans sa grâce, donne son esprit, il y a une nouvelle naissance qui se passe parce que la personne saisit par la foi, c'est un acte de foi, saisit par la foi ce que Christ a accompli à la croix pour nous. La personne passe de la mort à la vie spirituelle. Une nouvelle création, un ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, ces gens qui ont été élus et sauvés, Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance pour elles. Dieu les a choisis afin qu'il les glorifie par leur vie, afin qu'il glorifie Dieu par leur vie. Dieu nous a choisis afin que par notre vie, nous soyons en train de le glorifier. Nous avons de bonnes œuvres qui ont été préparés par Dieu, dans lesquels on doit entrer. C'est là que notre travail à nous entre en compte. Le conseil des anciens. Tournez avec moi dans Éphésiens 4. Dieu a élu des hommes et des femmes partout sur la terre. Dans sa grâce, il se révèle à ces gens-là lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, le message du salut en Jésus-Christ. Et il y a des gens qui passent par la conversion, qui passent par la nouvelle naissance, qui deviennent chrétiens. Dieu les a mis à part maintenant pour de bonnes œuvres. Il a préparé de bonnes œuvres pour eux. Notre travail à nous, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Notre travail à nous, c'est l'équipement des saints. Le mot qu'il y a là, catharsismos, signifie équiper, rendre complet, rendre à complétude, d'accord? Perfectionner la personne. C'est quoi le plan de match de Jésus une fois qu'il nous a sauvés? Vous savez, l'objectif, c'est que nous ressemblions tous à Jésus-Christ. Hein, le but, c'est qu'on vienne à la stature parfaite de Christ, c'est vrai? Le but, c'est que nous devenions comme Jésus dans nos attitudes, dans nos comportements. C'est quoi le plan de match de Dieu? Comment est-ce qu'il va faire ça? Comment on va arriver là? Est-ce que Jésus avait un plan? Il est venu mourir sur la croix, il est mort sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Vous êtes sauvés. Est-ce qu'il y a un plan pour la suite? Qu'est-ce qui suit après ça? Comment est-ce que la transformation va se faire? Jacques nous dit, par exemple, que les épreuves servent à notre sanctification. Les épreuves servent à nous faire grandir, maturer, nous rendre complets. Est-ce que c'est ça le plan? Le plan de Jésus, c'est quelqu'un entend l'Évangile, croit en Jésus-Christ, puis après ça, Dieu envoie plein d'épreuves sur cette personne-là, on va le sanctifier. Plein d'épreuves. Tu vas souffrir, copain, tu vas devenir comme Jésus. Il est mort sur la croix, il a souffert, plein d'épreuves. Pouf, t'es parfait, OK, je t'amène au ciel. C'est ça le plan de match. Parce que c'est vrai que les épreuves servent à notre sanctification. Est-ce que c'est ça le plan? Ou est-ce que le plan, c'est je vais sauver des gens, ils vont saisir l'Évangile, on va leur mettre une Bible dans les mains, on va leur dire, il faut que tu ailles prier maintenant, puis on les laisse aller. Et ces gens-là vont s'en aller avec leur Bible, avec la prière, peut-être butiner d'église en église, chercher un bon petit morceau par-ci, un bon petit morceau par-là. Puis c'est comme ça que ça se passe, seul par nous-mêmes dans ce monde. Est-ce que c'était ça le plan de Jésus? Est-ce que Jésus avait même un plan? Y avait-il un plan de match pour la suite? Paul nous dit que le plan de match de Jésus-Christ pour continuer à travailler à votre croissance, c'est qu'il a donné des hommes à qui il a donné une charge particulière. Et ces hommes-là sont appelés à mettre en œuvre, tout en œuvre, pour votre perfectionnement, pour vous upgrader, pour compléter ce qui a été commencé en vous. Et Dieu va le faire à travers des épreuves. Dieu va le faire lorsque vous lisez la Bible. Mais Dieu nous a confié à nous la responsabilité de tout mettre en œuvre pour votre perfectionnement, pour que vous grandissiez. À travers les prochaines semaines, on va voir plus précisément des choses que nous mettons en œuvre pour votre perfectionnement. Mais ce que je voulais clarifier avec vous ce matin, d'accord, c'est que ces hommes-là, la majorité d'entre eux le font bénévolement. Ces hommes-là qui consacrent 10, 15 heures par semaine souvent à présenter une vision devant vous, à présenter des choses devant vous, le font avec un seul souci. Après la gloire de Dieu, c'est de vous équiper. Et ils sont très consciencieux. Lorsque j'arrive avec 60 000 patentes, parce que je suis un gars à patentes, les gars m'arrêtent et disent, Yannick, c'est où que ça rentre dans le plan de Dieu? C'est ce que ça vient de Dieu. Tout ce que nous mettons devant vous sert à votre perfectionnement. Ça demande de l'assemblée de saisir que c'est la direction qu'on vous donne. Christ m'a saisi avec une passion, paie mes brebis, Yannick. L'Église, à travers les années, a dit, Yannick, on pense que tu as cet appel-là sur ta vie. Ça a été le cas pour Alexandre, ça a été le cas pour Michel, ça a été le cas pour Robert. L'Église a confirmé cet appel-là sur leur vie. Ça demande à l'Assemblée d'embarquer avec nous, de ne pas considérer ce qu'on vous présente comme une table d'hôtes, un buffet, un banquet. Moi, je me joins à une assemblée, je me joins à l'Église de l'Espoir. Puis dans l'Église de l'Espoir, il y a des cours bibliques le dimanche matin, il y a des classes, il y a des prédications, il y a des petits groupes. Puis je suis dans un banquet, je suis dans un buffet, puis je vais aller là, puis je vais choisir un peu à la carte. Ouais, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir ce que je veux faire. Maintenant, cette attitude-là, à long terme, a des conséquences extraordinaires dans vos vies. Cette attitude-là a des conséquences négatives extraordinaires dans vos vies. Voyez-vous, lorsqu'on prend le temps de monter des cours comme ça pour le dimanche matin, lorsqu'on prend le temps de s'investir comme des fous pour avoir des classes pour vos enfants, c'est parce que nous croyons que la vie chrétienne passe entre autres par la connaissance de la parole de Dieu. Alors pour nous, les cours à 9h, ce n'est pas une option. Je ne pense pas que vous m'avez jamais entendu dire, vous y penserez si ça vous tente. Je sais que je suis dur, Je vous parle avec mon cœur, je vous le dis ce matin. Pour nous, ce n'est pas une option. Pour nous, c'est une nécessité pour votre croissance dans la foi. Lorsqu'on vous dit, allez prendre le cours de membre, c'est parce qu'à partir du moment où quelqu'un décide d'être membre, il est en train de nous dire, toi Yannick, toi Alex, toi Robert, toi Michel, vous êtes nos bergers, les boys. Puis nous, on veut se soumettre à cette assemblée. On veut que vous veillez sur nous. On veut que vous nous dirigiez. On veut que vous travailliez à notre perfectionnement. À partir du moment où vous devenez membre de cette assemblée, pour nous, ce n'est pas une option. C'est la direction qu'on est en train de vous donner. Et vous savez quoi? Ça arrive pour toutes sortes de raisons qu'un chrétien va rester là, il va être assis dans le banc, il va regarder le train passer. Il n'accroche pas, il est comme décroché. On s'inquiète pour ces gens-là. On s'inquiète. Vous savez, lorsque vous vous absentez, on finit par le savoir. Vous êtes dans nos prières, vous êtes sur notre liste de prières pastorales. On s'inquiète pour vous, on pose des questions. Chaque fois que je croise des gars ici dans le corridor où qu'on se parle, les gars se disent « Hey, t'as-tu vu lui? T'as-tu vu lui? » On a mis en place l'équipe de visite Barnabas juste pour aller visiter ceux qui s'absentent parce qu'on s'inquiète. Alors, lorsque vous êtes assis là puis vous embarquez pas, pour nous, ça fait partie des soucis. C'est correct, dans un sens. C'est mon travail de berger. Mais ça fait partie des soucis. Parce que je dis au Seigneur, telle personne, Seigneur, dans 3 ans, ça va aller mal. Puis elle va avoir perdu 3 ans pour se préparer pour cette épreuve-là. Quand Colette Villeneuve a été atteinte par son cancer, la réponse qu'elle a donnée, elle a dit, ça va être enfin le temps de mettre en pratique les versets que j'apprends depuis 20 ans. Et lorsque moi, je vois un chrétien qui n'embarque pas, qui est en train de regarder le train passer, je regarde l'avenir et je dis, « Oh Seigneur, on est en train de perdre du temps pour se préparer. » On est en train de perdre du temps pour se préparer à entrer dans la moisson. On est en train de perdre du temps. C'est mon travail de berger, je vais continuer à prier pour vous, vous aimer, vous chérir de tout mon cœur, les anciens aussi. On va continuer à vous aimer quand même. Mais je vous dis, c'est un souci pour nous. C'est une inquiétude pour nous. On met en place ces cours le dimanche matin à 9h parce que vous en avez besoin pour devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour cette raison-là qu'on le fait. On développe les classes et Danny est en train de travailler, passer à travers tout le matériel pour nous donner de l'excellent matériel super biblique pour vos enfants parce que vos enfants en ont besoin pour le salut de leur âme. Le service du dimanche matin. Je vous partage, là, ça c'est moi, là, mon attente, d'accord? Si vous êtes membre de cette assemblée, je m'attends à ce que vous écoutiez 48 messages sur 52. On va s'en donner 4 de super. C'est ce que je m'attends. Sérieusement, je vous le dis. Moi, j'en écoute plus que 48 par année des prédications. Pas toujours les miennes, là, moi je les écris. Mais moi, je me nourris constamment. Si vous saviez combien de prédications j'écoute dans une année, vous auriez de la difficulté à me suivre. Mais si vous êtes membre de cette église, le service le dimanche matin, les cours à 9h, l'assemblée à 10h15, c'est fondamental. C'est là pour votre perfectionnement. Si vous manquez un dimanche parce que vous êtes pris avec un problème de santé, avec le travail, n'importe quoi, je m'attends à ce que vous couriez après. Aujourd'hui, c'est tellement facile de le faire, d'accord? N'importe quoi, achetez-vous un iPod, faites quelque chose, mettez ça là-dessus, écoutez-le dans la voiture. 48 sur 52, c'est bon? Parce que voyez-vous, il y a une partie de la direction qu'on donne à l'Église qui se fait ici dans ma prédication et celle des gars qu'on invite ici. Tous les gars qui ont prêché ici dans les dernières semaines, c'est moi qui leur avais demandé d'enseigner sur tel ou tel sujet. Parce qu'on est en train de donner une direction à l'Église. Frères et sœurs, on vous aime passionnément. On ne peut pas tous vous rencontrer, prendre un café avec chacun d'entre vous. Mais notre passion, c'est de vous voir grandir à la stature parfaite de Christ. Il y a une partie de l'Assemblée qui est à fond la caisse avec nous là-dedans. Il y a une partie de l'Église qui regarde le train passer. Je vous demande de vous examiner cette semaine, de mettre ça devant le Seigneur. À travers les prochaines semaines, je vais vous partager les choses qu'on met en place pour votre perfectionnement. Et je vais vous demander, et je vais mettre toute mon énergie à vous convaincre d'embarquer avec nous pour avancer avec le Seigneur. Et que par sa grâce, on puisse ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Amen. On prie. Éternel, notre Dieu, tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes péchés, Seigneur. J'étais un être misérable. Et Seigneur, chaque fois que je lis ta parole, je suis obligé d'admettre que je suis encore un être misérable, Seigneur. Je suis tellement loin de ressembler à Jésus-Christ. Tu connais mes péchés, ma femme les connaît, mes enfants commencent à les voir, mes collègues de travail savent combien je suis pécheur, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, il y a des pasteurs autour de moi dans cette église qui veillent sur mon âme, Seigneur, qui me parlent, qui m'exhortent, qui me provoquent, Seigneur. Je suis dans cette assemblée pour avancer et grandir à l'image de la stature parfaite de Christ, Seigneur. Et par ta grâce, je crois encore dans ton plan, Seigneur Jésus. J'aimerais te prier ce matin, Père, afin que tu puisses bénir cette série, afin que ma communication soit claire, qu'elle soit remplie de charité et de grâce, Seigneur. Mais je veux représenter ta passion pour ton projet de l'Église. Et je te prie, Seigneur, de saisir les cœurs de ceux et celles qui, pour toutes sortes de raisons, sont en train de regarder le train passer sans embarquer de plein cœur. Saisis leur cœur, Seigneur. Aide-les à saisir ton plan à travers ta parole et que nous puissions avancer comme un seul homme pour gagner ce monde qui périt sans Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. On va se lever, on va chanter ensemble.